Nous sommes ravis de partager sur deux événements sportifs majeurs, la Formule 1 et les Jeux Olympiques avec Valentin.
En effet, mesdames, messieurs, la saison de Formule 1 est toujours remplie de suspense et d'adrénaline, avec des pilotes qui repoussent sans cesse les limites de la vitesse et de la performance, comme on peut le voir sur certaines vidéos. D'ailleurs, Kevin, tu vas nous expliquer comment se déroule la saison 2024 de Formule 1.
Oui, merci. On va se plonger dans l'action palpitante de la saison 2024 de la F1. La saison a débuté début mars avec le Grand Prix de Bahreïn et 6 Grands Prix ont déjà eu lieu. Sans surprise, l'écurie Red Bull est favorite cette année avec à son palmarès Verstappen, triple champion du monde depuis 2021. Et devinez qui est en tête en ce début de saison, Red Bull. Suivi de Ferrari en deuxième place et McLaren en troisième. Cette année, ces 6 premiers Grands Prix, nous avons eu pas mal de surprises du côté de Red Bull avec un abandon dû à une panne mécanique lors du Grand Prix d'Australie. Les monoplaces de Ferrari ont brillé lors de ces 6 derniers Grands Prix en étant au moins dans les 3 premières places lors de ces 4 dernières courses, permettant à Carlos Sainz de profiter de l'abandon de Verstappen pour remporter la première place au Grand Prix d'Australie. Quel rebondissement en ce début de saison! Tous ceux qui pensent que Red Bull va conserver sa place de leader seront vite pris au dépourvu. Cette année, les autres écuries ont travaillé très dur pour avoir des monoplaces compétitives. Soyons prêts à voir des changements au niveau du classement. Le week-end dernier, le très jeune et talentueux Lando Norris a remporté son premier Grand Prix de F1 à Miami en décrochant la pole position et en effectuant un pit stop gratuit lors d'un drapeau jaune de sécurité. Il a eu l'occasion pour conserver sa première place. Et tout le paddock s'est empressé pour le féliciter, même ses adversaires. Même si ce sport demande beaucoup d'individualité, durant ce week-end, on a pu sentir une atmosphère d'amitié qui ressortait à la fin de ce Grand Prix. La F1 revient enfin en Europe ce week-end avec le Grand Prix Made in Italy de l'Emilie-Romagne. Pour ceux qui connaissent, qui se déroule à Imola, les essais commencent le vendredi 17 mai à partir de 11h, suivi des qualifs. Il y aura également une course sprint le samedi et la course principale le dimanche, débutant à 11h45. Alors n'oubliez pas de l'indiquer sur votre calendrier si ce n'est pas encore fait. Et cette année, la F1 est composée de 24 Grands Prix où nous allons pouvoir vraiment profiter de ces courses dynamique et les pilotes vont s'affronter ardemment pour décrocher ce fameux championnat du monde, le Saint Graal vraiment, le championnat constructeur pour les écuries. Donc assurez-vous de rester aux aguets pour ne rien manquer de cette saison captivante. Merci de m'avoir écouté et je passe le micro à mon collègue Valentin pour nous parler des Jeux Olympiques qui vont se dérouler à Paris cet été.
Salut à tous. Et oui, les fameux Jeux Olympiques qui débuteront le 26 juillet et qui s'achèveront le 11 août 2024. Donc comme vous le savez, ça se tient à Paris et dans toute la France. S'en suivront les Jeux Paralympiques du 28 août au 8 septembre 2024. Le 8 septembre 2024 sera le jour officiel de la fin de tous les Jeux Olympiques. Alors évidemment, c'est chez nous, c'est en France. Mais pourquoi? Je pense que c'est important de poser le cadre. Pourquoi la France? Eh bien, c'est une désignation officielle lors de la 131e session du CIO. Donc le CIO, c'est le Comité International Olympique. Ce comité s'est réuni à Lima le 13 septembre 2017 et c'est la France qui est l'heureuse élue pour l'organisation des prochains JO. Le saviez-vous? Il y a 10 500 athlètes qui sont attendus à Paris sur cette grande période. Chose importante, 5250 seront masculins et 5250 seront des filles. Donc ce qui vaut à une équité sportive, et c'est important de retrouver ça sur nos JO, le sport féminin qui a tant été bafoué. Il n'y aura pas une mais deux mascottes et ce sera des friges pour symboliser la liberté et la révolution ainsi que la France. Ils représenteront deux bonnets phrygiens, ceux qui sont avec moi. Voilà, deux petits bonnets phrygiens, c'est sympathique comme tout.
Je ferais bien un sondage quand même. Qui les trouve jolis autour de la table, les peluches?
Oh, c'est fou, sympa. Ouais. C'est...
Honnêtement, je croyais que c'était des triangles, on croirait des trucs de glace.
Ah ouais?
Ouais, ça peut ressembler à une glace à la fraise.
Moi,
mais
j'étais sur les peluches de la même forme, mais marron avec juste deux yeux.
Ça peut faire penser à ce qu'on essaie d'attraper à la foire, là.
C'est ça. Mais voilà,
on n'aime pas, mais ça représente le symbole de la liberté, de la révolution par rapport à Marianne.
Ouais, honnêtement, moi j'ai porté le bonnet phrygien en 89 et il avait plus de classe que celui-là.
Bon, toujours est-il qu'ils vont nous mettre, ils vont nous mettre l'ambiance dans tous les stades et on aura un très bon souvenir d'eux. Concernant la cérémonie d'ouverture du 26 juillet 2024, alors elle se situe au cœur de Paris. Le début est annoncé officiellement à 19h30. Alors il y aura les festivités toute la journée. Le protocole se tiendra au pied de la Tour Eiffel et par rapport à la billetterie, donc ça a beaucoup fait parler, sujet à débat. On a plus de 10 000 billets qui ont été vendus pour y assister et on a 2222 billets qui ont été donnés gratuitement suite aux invitations des partenaires et de tout ce qui s'ensuit. On a un défilé qui se déroulera sur 6 km donc qui passera sur les quais de Seine de Paris.
Et ça c'est la performance. Et
oui.
C'est la première fois qu'on va avoir un défilé inaugural, on va dire.
Exactement.
Sur une si longue distance.
Exactement.
D'habitude, c'est la même distance, mais en fait, ils font des tours de stade. Hein, donc, voilà.
Ça va être un réel défilé. Franchement, personnellement, j'ai hâte d'y être.
Oui.
Ça peut être l'événement, cette cérémonie d'ouverture, ça peut être l'événement, donc c'est l'événement de l'année, mais ça peut être vraiment le moment marquant de cette année.
Voilà, et je pense que Lucas, qu'on a interviewé tout à l'heure, a peut-être un rôle à jouer avec son drone. Je pense qu'il y a moyen de faire
super captation. Exactement, on va essayer de recontacter Lucas et pour qu'il vienne sur Paris nous faire ça. Côté sécurité, évidemment, ça coince. La jauge revue à la baisse face au casse-tête sécuritaire. Ils sont attendus 2 millions de spectateurs étrangers, 15 millions au total.
Ça va faire beaucoup de stadiers.
Ça fait beaucoup de stadiers et ça fait surtout une grosse organisation avec plus de 30 000 gendarmes et policiers répartis sur le secteur français. On a 15 000 militaires qui ont été demandés en renfort en plus par Monsieur Darmanin. Et on a écouté bien 22 000 agents de sécurité.
Et t'as entendu les annonces annoncées il y a très peu de temps, les petites primes spéciales pour les personnes qui seraient mobilisées sur la période des JO.
On est vraiment dans l'attente en France d'avoir encore plus de policiers, de gendarmes, de militaires, d'agents, de toutes les personnes qui pourront aider parce que le Premier ministre.
Ah bah y en avoir besoin, ouais.
Il est à écouter ses derniers discours, c'est un casse-tête sans fin. On a aussi, il a annoncé, Monsieur Darmanin, un plan Vigipirate renforcé plus. Par rapport aux différentes mauvaises choses qu'on subit en France en ce moment. Donc voilà. Suite au prochain épisode sur la sécurité, mais ça risque de coincer un petit peu quand même au niveau des effectifs.
Ouais, alors justement, j'ai fait une émission sur ce sujet-là il y a pas très longtemps au lycée Monet au Havre, et eux, ils ont une section métier de la sécurité. Et du coup, les élèves nous disaient qu'en fait, ils ont instauré un nouveau diplôme. Et en gros, en très peu de temps, je crois que c'est en moins de 10 jours ou 2 semaines, tu obtiens la formation pour faire de la sécurité.
D'accord,
et justement pour les JO,
aussi,
en fait.
Est-ce qu'on est vraiment aussi performant après cette formation qu'après celle de...
On rentre dans un autre débat, mais c'est exactement ce que se demandaient les élèves.
On verra. Concernant la billetterie, on a un même système pour les JO normales et les paralympiques, s'inscrire et être tiré au sort. Donc quoi qu'il arrive, qu'on soit tiré au sort, on a demandé le foot et on se retrouve sur un match de waterpolo. C'est une chance en fait d'y être. Quoi qu'il arrive, quand on rentre dans un stade pour voir quelque chose des JO, c'est une chance. Donc si on a demandé un sport mais qu'on se retrouve dans un autre sport, ce qui arrive à des centaines de personnes, eh bien c'est pas grave. Il faut voir le côté positif des choses. Par contre, on a des tarifs qui montent à vitesse grand V. Par exemple, j'ai recueilli 2-3 informations sur les matchs de boxe. C'est 205 € par personne. Sur un match de waterpolo, c'est 150 € par personne. Sur une soirée attelée, donc de la fin d'après-midi jusqu'à la fin du feu d'artifice, c'est 980 € par personne. 280 € par personne pour voir du volley. Donc, est-ce qu'on est vraiment dans une... Il y a pas mal de polémiques autour de ça. Est-ce qu'on est vraiment dans une fête populaire? Et est-ce qu'on est sur une accessibilité familiale?
C'est du luxe à ce prix-là.
Ouais,
exactement.
C'est ça.
C'est des prix qui flambent sur la revente. C'est énorme.
Mais c'est toujours la question qu'on se pose en fait. Est-ce qu'on essaie d'avoir de faire venir les locaux ou alors est-ce qu'on fait venir les gens qui ont les moyens
exactement.
De venir? Voilà, c'est toujours la question qu'on
pas
peut se poser.
Pas mal de polémiques là-dessus et on a aussi une promesse bafouée sur la gratuité des transports qui devait être totalement gratuit et puis finalement on apprend que le ticket sera facturé au prix de 4 €, le forfait de la journée
surfacturé pour les touristes
et voilà qui explose, c'est voilà accumulé à des retards de chantier, une Seine polluée, on se demande comment vont faire les nageurs, même si nos politiques sont apparemment dans tout se passe dans les plans pour l'évacuation des déchets de la Seine. On apprend que des étudiants sont, alors j'aime pas le mot virer, mais forcés de laisser le Crous.
Leur logement disponible.
Voilà, tout l'été. On a des Airbnb qui passent de 80 euros à presque 1000 euros la nuit. Et puis nous, sur le bassin des Poix, on a appris que Jean-Paul Villain, qui a représenté 3 fois les JO, n'était pour l'instant pas représenté, sélectionné pour porter la flamme. Mais nous, on réagit et Monsieur Jumel et Monsieur Langlois sont montés au créneau hier pour faire une lettre à Madame Amélie Oudéa Castrera pour faire changer les choses et que Jean-Paul, notre Jean-Paul, puisse nous représenter. On finit évidemment sur du positif quand même. Il n'y a pas que des choses négatives. Il y a pas
Jules qui porte la flamme, c'est ça ?
Qui ça ?
Jules qui porte la flamme ?
Non, ça c'est pas positif. Non, je plaisante, pardon. Jules, on est ensemble. Mais avec le passage de la flamme olympique, c'est important de rappeler que c'est vraiment le symbole. Quand Jules l'avait dans les mains, il y a eu une polémique aussi par rapport à ça, parce que quand il a fait son signe, je pense que les gens ont confondu deux choses. L'artiste qu'il est et le symbole qu'il avait dans les mains. Il a voulu associer les deux, ça plaît pas à certaines personnes. Bon, chacun se sent
après, c'est le kiff du moment.
C'est enfantin, c'est ça, exactement. Mais ça plaît pas à certaines personnes. Tout de suite, il y a eu pas mal de réactions sur Twitter. C'était un petit peu chaud.
Ouais, les gens sont jamais contents.
Voilà, le but, c'est ça, exactement. Le but de la flamme, c'est de faire un relais dans plusieurs villes de France. Alors, il y a 400 villes de France qui ont été sélectionnées. Et le dernier relayeur, en fait, il fait tout le tour du stade, du fameux stade olympique. Et il rejoint le fameux chaudron olympique. Il embrasse le fameux chaudron olympique. Et c'est un moment magnifique. C'est le moment qui dit que ça y est, les JO, c'est parti, ça a commencé. Quoi.
Ouais, je vous invite vraiment, chers auditeurs, à essayer de regarder sur Internet des vieilles vidéos d'allumage de flamme olympique. Il y a vraiment des trucs sympas. Et je crois que c'était en Grèce ou à Sydney où vous avez tiré avec une flèche ou un truc comme ça. C'était assez impressionnant, l'allumage de la flamme olympique. Regardez-en quelques-unes, ça vaut le détour.
La flamme olympique, elle va passer à Dieppe, dans Dieppe. Donc c'est pour ça qu'on a aussi une polémique avec Jean-Paul Villain, mais elle va passer dans Dieppe. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de très fort. Ça va être un moment historique pour la ville.
C'est un moment à pas rater.
On accueille quand même la flamme olympique.
Tu sais que le lendemain, elle sera dans mon patelin.
Et c'est où ?
À Dives-sur-Mer. Donc c'est entre Deauville et Caen, dans le Calvados. Donc ouais, redescend.
Et la chose positive, c'est qu'il y a aussi une équité sportive, comme je vous l'ai dit, c'est 50% des hommes et 50% des femmes qui vont la porter pendant tout le trajet qu'elle fait depuis son arrivée sur le sol français. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport aux 50-50 des athlètes, on met vraiment les femmes à l'honneur, et ça, c'est une très bonne chose. Elle est partie le 8 mai, donc soit 2 mois avant. Elle passe dans 64 territoires, dont les territoires d'outre-mer. Voilà, j'ai fini sur les Jeux Olympiques et il me reste juste un tout petit truc à vous dire. C'est quand même parce qu'on supporte la France, c'est allez les Bleus quand même.
Allez les Bleus.
Allez les Bleus.
Et moi j'ai une question pour toi.
Oui.
Quel est le sport que tu rateras absolument pas ?
C'est le foot.
Ok.
Évidemment, le foot, l'athlé, mais comme je vous ai dit, tous les sports. Moi j'aurais aimé même aller voir du water polo. Je veux dire, il y aura tellement comme ambiance. Enfin, c'est quelque chose qu'on, si on a la chance de le faire.
Bah, c'est une compétition internationale, quoi.
C'est, voilà.
Les JO.
Bon, le foot, la France, et voilà. Et juste avant de terminer, je l'ai pas fait tout à l'heure, mais j'aimerais faire une dédicace aux collègues AED, les petits zingues, et dame qui nous écoute depuis l'internat, depuis le poste radio qu'on a dans notre chambre. On est ensemble, mon dame, force à toi, force pour ce soir, force pour cette nuit. On se revoit demain matin, t'inquiète pas, et merci les gars, on est ensemble.
Yes, merci aussi à Manon.
Merci à tous les collègues, Manon, tous les zingues, tous les collègues, tous les AED, CPE, ouais, et tout le monde, et toutes celles et ceux qui nous écoutent, et vraiment, c'est un très bon moment qu'on a passé tous ensemble. Yes. On est ensemble.
Merci beaucoup.
Bien, un grand merci à nos deux chroniqueurs du jour. Après cette passion sur la Formule 1 et les dessous des JO, pour clôturer cette fin de chronique, nous passerons à un son qui se nomme Sébastien Mbody. Yeah.